Bonjour tout le monde. On va bien sûr saluer les gens qui se joignent à nous, les gens du 106.9 Mauricie, les gens du 107.7 Estrie. Merci beaucoup. Vous avez manqué une bonne discussion sur le fait qu'on a le droit, donc en ce moment, puisque certains articles de la loi qui encadre, la loi fédérale qui encadre la marijuana, on a le droit au Québec, ça a été invalidé, l'interdiction de faire pousser des plants de pot chez soi. Je vous encourage à réécouter sur notre site Internet. Vous allez sur l'onglet Isabelle, puis vous pouvez réécouter cette heure de discussion avec des invités. Il y a plein d'auditeurs qui sont intervenus et on parlait du fait que on pouvait donc, en ce moment, faire pousser moins de 5 plants de cannabis chez soi, avec tout ce que ça veut dire aussi dans le respect des voisins. On a beaucoup parlé de civilité, peut-être même pas assez encore. Il y a beaucoup de gens, je vous en reparle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là, depuis tout à l'heure, puis qui me disent les graines de pot, on avait abordé cette question-là, on les trouve sur Internet. Je veux juste vous rappeler que si vous faites livrer des graines de pot chez vous, ça reste un geste illégal selon la loi. Donc, je voulais juste vous dire ça. On va parler maintenant, parce que j'aime bien vous donner des modèles inspirants pour changer de vie. Le changement de vie est devenu très, très populaire au fil des ans. C'est fou le nombre de Québécois qui aimeraient faire d'autres choses. Je sais que vous êtes friand de ça. Je reçois régulièrement des demandes de gens qui veulent avoir des exemples. Et j'en ai deux ce matin avec moi. Hélène Cyr a été vice-présidente chez Bombardier, entre autres. Elle est devenue bénévole en Afrique et aujourd'hui, elle contribue à l'éducation de plusieurs centaines de jeunes Africains. Merci, Hélène, d'être là.
Merci.
Elle vient d'ailleurs de publier un livre avec Luc Bouchard qui s'intitule « Changer de vie ». C'est un parcours incroyable que vous avez eu. Hélène, merci d'être là. Vous allez nous en parler. Patrick merci. Lacasse est passé de l'industrie du mobilier de bureau, où il a d'ailleurs été plusieurs fois millionnaire. C'est une bonne business que vous avez réussi à vendre, entre autres, avec un grand profit. Mais vous n'étiez pas forcément heureux. Et là, aujourd'hui, vous faites des petites bouchées en chocolat, des délices à la noix, c'est ça? À la pâte de noix.
Délice à la pâte de noix. On n'a pas réellement de chocolat. En ce moment, on vient juste de sortir peut-être un petit échantillon avec un peu de chocolat, mais le reste, c'est tout fait avec de la pâte de noix qui est à l'intérieur de la petite bouchée enrobée de fruits ou d'épices.
Et tous les deux, donc je vais commencer avec Hélène, vous permettrez. Vous avez donc décidé de changer de vie. Hélène, rappelez-nous, c'est amusant parce que ces modèles de gens inspirants, ça inspire aussi, ça vous a inspiré, vous, entre autres, parce que vous dites, j'avais lu l'histoire d'une dame qui était hygiéniste dentaire puis qui était allée redistribuer des brosses à dents en Afrique, puis ça vous a inspiré, et que vous l'avez même appelée. Est-ce que vous diriez que c'est ça, c'est le mode d'autres qui sont devenus des modèles pour vous, qui vous ont incité à faire ce pas?
En fait, je pense que des modèles, oui, c'est important, puis c'est inspirant, comme tu dis. Mais c'est aussi une façon de nous aider à faire le saut. T'sais, c'est pas de suivre nécessairement les pas de quelqu'un, puis changer de vie, ça peut avoir plein de formes. Moi, l'Afrique m'intéressait, puis justement, elle vendait des brosses à dents, puis elle cherchait à ramasser des brosses à dents. Puis je l'ai appelée en disant, j'ai pas vraiment de brosses à dents, mais j'aimerais que tu me donnes des conseils à savoir comment elle est en Afrique. Puis c'est drôle parce que je reçois aussi des commentaires comme ça maintenant et ça me fait plaisir de voir que mon expérience aussi peut en inspirer d'autres.
Ouais, je disais que vous aviez eu des hauts postes de cadre. Vous avez été, d'abord, vous êtes ingénieur. Hein? Vous avez aussi, je pense, une maîtrise en administration des affaires, en tout cas des
c'est
cours.
C'est ça.
Ouais. Vous êtes MBA, donc?
MBA, puis ingénieur industriel de la Polytechnique.
Alors, on ne s'étonne pas de vous avoir vu occuper des postes très importants chez Bombardier, entre autres, où vous avez été vice-président de transport, des postes très payants.
Oui.
Dites-moi pourquoi vous n'étiez pas bien dans ce genre de poste-là. Parce que vous racontez dans votre livre qu'à un moment donné, vous avez craqué. C'était plus possible pour vous, là.
Oui. En fait, j'ai toujours aimé les défis. Alors, je ne regrette rien. J'ai adoré mes expériences chez Bombardier. Mais à un certain niveau, j'étais plus bien moi-même. Je me suis rendu compte que j'aimais plus la personne que je devenais. Et puis, pourquoi ça? C'est plus, je dirais, la performance au détriment des autres. Moi, performer, j'aime ça. Mais j'aimais pas devoir imposer un rythme de vie aussi intense à d'autres personnes qui peut-être je les rendais malades. Je me souviens, j'avais des gens qui se rapportaient à moi, qui étaient en burn-out, puis je me disais, ben, tu sais, c'est ça que je veux faire.
Vous aviez l'impression que c'était de votre faute?
Oui, c'est sûr. C'est ça. Je sentais que je devenais trop intense. Je venais impatiente à l'épicerie, partout. Donc, je m'aimais plus. Puis j'ai dit, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais non, moi, tu peux pas arrêter, t'es your president material. Tu vas être présidente un jour. Puis j'avais dit, oui, mais si je peux bien en tant que vice-présidente, je serai jamais bien en tant que présidente, ça va être pire. Donc, c'est ça. Je pense que c'est pas nécessairement que j'ai eu l'appel pour l'Afrique, parce que oui, l'Afrique m'a toujours intéressée, mais c'était plutôt de dire, ben, je suis pas bien avec moi-même, donc on va prendre une pause, puis je vais essayer de voir s'il y a pas autre chose qui m'anime plus.
Oui, vous dites à un moment donné dans votre livre, j'avais beau leur expliquer, donc à ses patrons, qui vous disait, regarde, tu fais 500 000 piastres par année, là, puis attends, là, tu vas faire plus d'argent, tu vas être présidente éventuellement. Vous disiez, j'avais beau leur expliquer que mon épanouissement personnel était plus important pour moi que mon salaire annuel, ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée que je préférais m'amuser en gagnant moins que de m'embêter en gagnant plus. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent comme ça. Puis c'est vrai que c'est difficile à expliquer, puis on dirait que des fois, les gens ne comprennent pas.
C'est clair, puis même que tu te poses la question à toi aussi, c'est moi qui n'ai pas correct.
Ouais.
Je suis malade.
Ben ouais. C'est beaucoup d'argent, un demi-million par année. Là.
C'est beaucoup d'argent, mais je pense que j'ai toujours senti aussi que je carburais au défi, mais que je voudrais peut-être pas faire ça toute ma vie. Donc, tout cet argent-là, je la dépensais pas. Et je la mettais de côté parce que je me disais, quand ça me tentera plus, je vais aller faire quelque chose d'autre.
Donc, vous avez donc eu les moyens de changer de vie, de prendre une pause puis de dire, OK, là, je vais aller faire du bénévolat en Afrique pour voir qui je peux devenir que je vais aimer, là, finalement.
Exactement. Puis j'avais dit, puis au pire, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, je reviendrai, je vais me trouver quelque chose. Tu sais, j'ai toujours eu quand même un courage aussi, si on veut. Puis je me suis dit, ben, j'essaye, je vais avoir 2 ans, puis si ça ne marche pas, je reviendrai, puis ça fait 10 ans.
Mais oui, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense, vous étiez venue me parler du Lab École. Vous étiez devenue directrice du Lab École au Québec, le Lab École, le projet là, avec Pierre Thibault, Ricardo, Pierre Lavoie. Mais ça vous a comme pas branché longtemps?
Non, en fait, ça faisait comme 9 ans là, que j'étais au Rwanda. J'avais fait le tour. J'avais envie de revenir au Québec. Je savais pas exactement comment. Puis j'avais eu cet appel-là. Puis j'avais dit, ben, pourquoi pas? Ça me fait, tu sais, l'éducation et tout ça. C'est... Mais je me suis... En fait, ça l'a confirmé que ma place était vraiment dans le développement international où j'aime ça. Donc, j'étais pas. Le projet était excellent.
Mais ça restait un job de bureau.
Mais ça restait un job de bureau où j'ai tout fait.
Je viens à vous, Patrick Lacasse. Vous écoutez le témoignage d'Hélène Cyr. Puis depuis tout à l'heure, vous hochez de la tête en disant, visiblement, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit. Vous non plus, vous vous sentiez pas bien. Puis on parlait de 500 000 $ de salaire et plus, d'Hélène. Mais vous avez fait des millions. C'était votre compagnie?
Oui, ça.
Qui faisait à l'époque 120 millions de revenus.
C'était plus l'entreprise familiale.
Oui, l'entreprise mais familiale, mais vous n'aviez un petit bout.
Oui, sauf qu'écoutez, je pense pas qu'il y ait d'argent qu'ils peuvent acheter. Lorsque tu es malheureux dans une situation, il n'y a pas d'argent qui devient assez important pour t'enlever ce mal quasiment de vivre là, dans ce qu'on fait. Je vous dirais, j'expliquais à Hélène rapidement, ça me fait moins de quoi d'en parler aujourd'hui, mais j'ai tout de même eu, à un moment donné, des idées noires parce que j'étais tellement malheureux, je ne voyais pas comment m'en sortir. Aujourd'hui, je fais un travail qui me passionne. Je t'expliquais tantôt que j'ai un ami qui me disait souvent, Robert Despatie, qui me disait, bien Patrick, tu peux
ancien président de Vétotron.
Oui, c'est bien ça. Et Robert me disait, écoute, qu'on peut faire des grandes choses lorsqu'on a la passion. Évidemment que moi, j'ai été un petit peu, j'ai tombé dans l'ouvrage de la famille, qui était entrepreneur à ce moment-là. Je n'avais pas choisi le secteur. Je me suis dit, j'ai été diagnostiqué.
Vous avez été happé par ça, finalement.
Oui, j'ai été diagnostiqué, je vous dirais, TDAH, parce que j'ai demandé, à un moment donné, à passer les tests. J'ai compris pourquoi je n'aimais pas l'école très jeune, parce que je n'ai pas les cours qu'Hélène a. J'ai un secondaire 5, puis mon idée, c'était vite de m'en aller sur le marché du travail, parce que j'avais plus de
vous aimiez
d'intérêt.
Pas l'école. Ouais.
J'aimais pas l'école. Puis, comme je vous dis... c'était d'aller travailler avec la famille. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'avais pas nécessairement choisi mon métier à ce moment-là.
Ouais. Et est-ce que vous l'avez traîné un peu, ça, ce non-choix?
Au départ, ce qui arrive, c'est qu'on a eu un certain succès. J'ai fait des sous qui devenaient un peu un intérêt quand tu es jeune. Tu as plein d'idées à comment dépenser ton argent aussi.
C'est grisant faire de l'argent quand même.
Oui. J'ai fait un petit peu... une petite carrière en course automobile aussi, qui me permettait de prendre les finances de l'entreprise pour faire un sport qui pouvait peut-être m'amener à l'extérieur. Je pensais d'aller remplacer Gilles Villeneuve à ce moment-là.
Okay. Et, encore quelque chose de grisant, ça.
Oui.
Fait que vous carburiez beaucoup à l'adrénaline.
Beaucoup. Encore, ouais. Encore un petit peu aujourd'hui, mais comme j'expliquais, je prends ce défi-là, évidemment, et je veux finir par me démarquer et le faire connaître davantage.
Là, vous parlez de la Délice Lacasse, qui sont des bouchées à la pâte de noix.
Exact.
Mais donc, pour vous, puis après, bon, vous avez essayé de faire une autre entreprise de meubles. Quand ça a été vendu, l'entreprise familiale, vous avez pris un...
Moi, j'étais déjà sous-traitant de l'entreprise familiale. Ouais. Lorsque mon père a vendu, mon père et mes deux oncles. Et ce qui est arrivé, c'est que l'entreprise, un an et demi après la vente, m'ont un petit peu tassé. Mm-hmm. Comme j'expliquais à Hélène, j'avais des gens qui avaient été formidables avec moi, mes employés qui étaient... On est d'un petit village.
Et je me devais... Saint-Pied-de-Bagotte.
C'est bien ça. Mm-hmm. Et je me devais... j'avais la responsabilité de leur donner un salaire pour faire vivre leur famille aussi.
C'est là que donc, cette entreprise-là que vous aviez partie, voilà. Vous avez perdu 5 millions de dollars à peu près, c'est ça?
Oui.
Ça a été difficile?
Oui.
C'était toutes les économies que vous aviez faites dans la vente de l'entreprise familiale?
Exactement. Exact. Sauf que...
Et que là, on se retrouve, 55 ans, pas une scène...
Beaucoup moins.
Vous aviez encore des moyens?
Mais j'avais encore les moyens, parce qu'évidemment, on sait aujourd'hui, partir d'une entreprise, ça coûte des sous.
Oui.
C'est ce qui me permet de continuer à financer ce que je fais en ce moment.
C'est ça. Parce que ce que je comprends de vos deux profils, puis les gens pourront intervenir, mais changer de vie, on dit souvent, t'as juste à le décider, puis tu te donnes les moyens. Mais il faut quand même avoir un petit coussin, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça prend quand même. On ne peut pas se lancer dans le... Tu ne peux pas démissionner demain matin. Il reste ton loyer à payer, ton auto à payer. Il faut quand même avoir prévu quelque chose, Hélène.
Il faut avoir des moyens, c'est sûr. L'argent, je dis souvent, c'est un mal nécessaire. Il en faut. Mais si on attend d'avoir les moyens pour faire quelque chose, on les aura jamais. Parce que des responsabilités, il y en a toujours. Après les enfants, ça va être les études. Après ça, ça va être des parents qui vieillissent. Ça va être... Donc, je pense que faut préparer. Comme je dis souvent, je faisais un gros salaire, mais je dépensais pas tout. Si je le dépensais tout, puis j'avais... J'aurais pas eu les moyens de le faire.
Okay.
Mais c'est pas non plus... C'est, comme je dis souvent, il y en a qui ont fait bien plus d'argent que moi puis qui auront jamais l'intention de faire ça. Puis il y en a qui en font beaucoup moins puis qui arrivent à en faire beaucoup aussi pour la société.
Donc, vous dites que c'est pas une question d'argent. Là.
C'est définitivement pas juste une question d'argent, non.
Patrick?
Je vous dirais, Isabelle, j'ai deux personnes, je voudrais pas nommer, mais je lui conseille avant tout de se faire une liste de ce qu'ils veulent. Moi, je crois beaucoup que si tu l'envoies un petit peu dans l'univers, je dirais comme Hélène, à un moment donné, ça va finir par t'arriver.
Ouais. Mais c'est où l'univers?
Lance ça dans ta tête et tu seras surpris qu'un jour, tu n'auras pas nécessairement besoin d'avoir 200-300 000 en arrière de toi. Il y a des choses qui
vont faire. Parce que l'univers, ça peut être la pensée magique aussi. Là.
Et voilà.
Ouais. Mais la pensée magique, on sait que ça ne marche pas.
Moi, je vous dirais, par des gens qui m'entourent, ça fonctionne, Isabelle.
La pensée magique?
Pas la pensée magique. De
lancer dans l'univers?
De l'écrire.
Oui, de l'écrire. Ah, de l'écrire, puis à partir du moment où on fait un pas, quand même.
Ouais. Bien, ça peut t'amener de le visualiser.
Oui.
Robert était un cas comme ça, qui me disait, Patrick, j'ai ma liste, moi, dans mon miroir. À tous les matins, je la vois, je relis.
Ah oui? Avez-vous une liste, vous aussi?
Oui.
C'est quoi votre liste?
Bien, je vous dirais, avant tout, à un moment donné, c'était d'être heureux. Qu'est-ce que ça me prend pour être heureux? Ben, c'était de me retrouver peut-être un autre emploi. Je savais que je ne retournerais sûrement pas dans le mobilier de bureau ou dans le monde de la mélamine. J'avais un intérêt ou une passion pour l'alimentation. Je suis un gourmand de nature, sauf pas un all you can eat, mais un slow food qui j'aime les petites choses qui se démarquent. Mais avec la pensée, je vous dirais qu'on y arrive.
Ouais. Hélène? Oui. Avez-vous une liste,
Non, c'est ça. J'ai pas de liste, mais je comprends très bien ce qu'il dit, puis je suis d'accord. Moi, c'est plus, j'ai des signes quand je suis pas bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment tout ce qui m'arrive, comme ça arrive. Je suis quelqu'un qui aime embarquer dans plein de choses, plein de projets. Mais si ça marche pas, j'ai des signes et j'arrête et
genre,
je change.
Physique?
Physique, définitivement. Comme, mal au ventre, mal dans le dos. Et émotionnel, dans le sens que là, je m'aime pas. Il y a quelque chose qui fait que je me trouve pas rayonnante. Puis ça paraît dans mon visage. Quand ça va bien, les gens disent « Hélène, tu rayonnes ». Donc, c'est physique et je ne sais pas si on dit spirituel, mais c'est émotionnel. Oui,
oui, ouais, tout à fait. Vous le ressentez. Ouais. Je pense que c'est normal que notre corps nous envoie des messages quand on n'est pas bien.
Ouais.
Heureusement, parce que sinon, on tomberait raide souvent.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a des gens qui s'écoutent moins. Tu sais, quand on dit, il y a eu des livres là-dessus, ton corps te parle, écoute ton corps. Là, bon. Mm-hmm. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais il y a quand même des faits. Il y a des médecins qui vont vous le dire.
C'est ça. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, bien, est-ce que c'était t'as toujours été ton rêve d'aller bâtir une école en Afrique? Puis je dis, mais non, je suis ingénieur de formation, j'avais aucune idée où je m'en allais. C'est le rêve d'un Rwandais qui est devenu notre rêve.
C'est
alors
ça.
Moi, je carbure à faire réaliser les autres leurs rêves.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que ma liste n'est pas claire, parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer, je
ne
sais pas
mais
c'est quoi
on,
les rêves.
On voit dans votre livre que vous êtes une fille d'action
oui.
aussi. Vous arrivez quelque part, vous dites
c'est
une
oui.
bananeraie, puis là, vous venez de vous faire raconter qu'il faudrait une école parce que les jeunes n'arrivent pas à se former. On comprend aussi, malheureusement, qu'il y a encore de l'esclavage d'enfants en ce moment, même au Rwanda ou en Afrique. C'est...
Il y a
et
des
donc,
enfants
vous
qui
arrivez,
souffrent,
vous,
donc...
Vous, ouais. vous achetez ça, vous mettez 10 000 $ let's go, on le fait.
C'est... Oui, c'est ça. Moi j'aime créer.
Il y en a qui y auraient pensé, là, ils seraient revenus au Québec, ils auraient dit, attends, je vais me calmer, je vais y penser.
Exactement.
Je vais mettre 10 000 là-dedans. C'est ça, quand même.
Oui, oui, c'est
faut,
sûr.
Vous avez du guts.
J'ai le courage, puis je me suis... Ça, dans l'école, j'ai toujours dit, j'ai pas eu d'enfants, ça m'a coûté bien plus cher que ça, élever des enfants.
Je vous le confirme.
Alors, on y va.
On va s'arrêter ici. Est-ce que nos deux invités, Hélène Cyr et Patrick Lacaze, vous donnent envie de prendre une décision, faire ce pas? Ça peut être un petit pas, ça peut être un moyen, un plus grand. Hein? On peut y aller à la vitesse qu'on veut, finalement. Il suffit de le décider. Puis des fois, là, t'es pas obligé de changer ta vie bout en bout, là. Tu peux juste changer deux, trois affaires qui te fatiguent. 514-790-9850. Et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant partout au Québec le 1-866-790-9850. Des gens qui ont changé de vie nous racontent comment ils ont réussi à être plus heureux. C'est le cas d'Hélène Cyr et de Patrick Lacaze. Hélène était vice-présidente, entre autres, chez Bombardier. Elle a travaillé aussi chez CAE. Elle a travaillé à la Croix-Rouge. Elle a travaillé pour le Labécole. C'est fascinant, Hélène. Vous sembliez avoir... évidemment, c'est sûr que quand on est ingénieur MBA, on a des diplômes, puis les gens aussi. Bon, c'est quand même une expérience incroyable. Donc, mais c'est impressionnant, tous ces postes que vous avez eus. Patrick Lacaze dit, moi, j'ai juste un secondaire 5, mais il a travaillé dans l'entreprise familiale pendant des années. Vous avez eu votre propre entreprise. Là, vous en venez d'en partir une autre. À plus petite échelle, on fait moins d'argent, mais on est plus heureux. C'est votre message. Avec nous, évidemment, beaucoup de gens réagissent. Marie-Ève, vous en pensez quoi de ces modèles? Ça vous inspire?
Oui, certainement. Mais en fait, moi, présentement, là, je suis un peu en train d'accompagner mon conjoint là-dedans, dans un changement.
Ouais.
Il était contremaître pour les couvertures. Puis, c'est un gros métier. T'sais, il fait beaucoup d'argent dans ce métier-là pour travailler dans les toitures. Donc,
ouais.
C'est un gros changement qu'il a fait en ce moment. Il est allé pour la micropigmentation capillaire. C'est dans le domaine de l'esthétique. C'est comme une imitation du follicule pileux des cheveux pour ceux qui font de la calvitie.
Mm-hmm.
C'est avec une machine qui ressemble à une machine à tatou. C'est vraiment un changement de domaine extrême.
Oui.
Là, on s'entend, là, tu sais, quelqu'un qui est manuel, qui s'en va dans l'esthétique. C'est un gros changement. Il a fallu qu'il aille juste de Laval jusqu'à la Prairie pour faire le cours. Il perdait des heures sur les toitures pour aller faire ce cours-là. Puis là, finalement, il ouvre sa boutique, là... En octobre.
Et vous le suivez là-dedans? Vous étiez d'accord avec son changement de vie, de travail?
Je l'ai toujours, je l'ai toujours poussé à faire ça parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement minutieux, qui est bon dans tout ce qu'il fait. Donc, je savais que ce serait gagnant pour lui. Puis, je savais qu'il était allé des couvertures aussi. Là, c'est dur sur un corps. Puis, ça faisait une dizaine d'années qu'il faisait
ça.
Mais, tu sais, c'est sûr que le budget, dans ces moments-là, comme la personne disait tantôt, là, c'est pas toujours une question d'argent, sinon on le fera jamais.
Ouais.
Ben, tu sais, on n'avait pas nécessairement les moyens de se permettre qu'ils perdent plusieurs journées à aller faire la formation. Mais on le fait pareil. Puis là, ben, ça a fonctionné. Il ouvre au mois d'octobre. Puis
je vous souhaite bonne chance à vous et à votre conjoint. Merci, Marie-Ève. Merci beaucoup. Sylvie, bonjour.
Oui, salut.
Salut.
Je trouve vraiment intéressant votre émission Un changement de 180 degrés.
Ouais.
J'ai fait la même chose en 2007-2008. J'ai été 25 ans cadre chez Bell Canada.
Mm-hmm.
D'aujourd'hui, je traite des vaches. Je suis productrice laitière.
Wow, ça c'est tout un
exactement.
Changement.
Exactement. En 2007, j'avais été voir un assez gros monsieur là qui
un gros producteur,
fait son lait.
Mm-hmm.
Oui, exactement. puis j'avais dit à Mathias, j'ai dit, je veux tout apprendre. Mais moi, j'ai peut-être des racines aussi. Mon grand-père avait sa ferme laitière. Puis mon père, quand il a vu ça, quand il était jeune, il a dit, non, non, moi, je m'embarque pas là-dedans. Fait que lui, il est venu plombier.
Ah, puis, mais vous êtes revenu à, finalement aux racines familiales.
Exactement. Puis j'ai tout appris. Puis j'ai tombé en amour, la passion avec les vaches. Puis aujourd'hui, je suis toute seule. Puis je suis en Montérégie, presque ben, dans le coin de Bedford.
Ah, c'est formidable. Vous êtes devenue fermière. De belle Canada. Exactement. À fermière. C'est formidable, ça.
Depuis 2007.
C'est... Mais bravo, 2007, puis vous regrettez
puis
pas.
Je rien. Ouais. J'étais plus capable d'être dans un bureau.
Ouais.
Le travail physique.
Mais ça, c'est des quotas, là. Vous avez réussi à. Vous avez acheté des quotas de vaches, puis tout. Ça prend quand même pas mal d'argent.
Pas beaucoup.
Ouais.
Ça, oui, c'est ça. Mais ce que je me dis, ben oui, ça en prend un peu d'argent. Mm. Mais j'ai fait, honnêtement, avec vous, premièrement, j'ai 53 ans. Je suis une femme. J'ai été dans la relève. Je suis encore dans la relève agricole. Puis les gens, quand ils te voient arriver, t'es une femme de ben dans le temps, j'avais comme 48 ans quand j'ai voulu, là, 4 ans. Aujourd'hui, la nouvelle génération sont open, sont ouverts. Mais avant, ouf, c'est avant ça, là, puis en plus, je suis sentinelle, là, j'aide les agriculteurs en cas de suicide. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur
de faire ses preuves et de faire sa table. Ah oui, c'est sûr.
Puis
ah oui.
Ils disent, les gars, quand ils vont y aller, oh, c'est une fille à vache, puis elle fait ça, puis blablabla. Sauf que c'est ça. C'est encore le mythe est là. Puis,
ah oui, c'est sûr.
Ça. Vu que je suis seule, ben.
Ouais. Hey, merci, ben, Sylvie. Trouvé... Puis ça nous donne l'occasion de saluer tous les agriculteurs et agricultrices au Québec parce qu'il faut. On les remercie pas assez de cette force vivante qu'ils représentent. Moi, je suis une fille de la terre. Ma famille est issue de la terre. Puis moi, j'ai été une fille, pas une fille de vache, une fille de cochon. Parce que c'était une de mes premiers jobs d'été. Je travaillais à la ferme porcine de mon père. En tout cas, tu sais, le bacon. Moi, je suis végétarienne, mais le bacon a toujours sa petite place. C'est comme ça. Sylvie, je trouve ça fabuleux, son exemple. Parce que ça, c'est un changement de carrière important. Tu sais, travailler dans un bureau chez Bell. Tu te retrouves sur une ferme, c'est impressionnant, ça, Hélène.
Je pense qu'elle a suivi son cas, ses racines. T'sais, elle dit qu'elle est retournée à ses passions. Donc oui, un passage à faire autre chose, mais nos passions, quand on est, il ne faut pas les oublier. C'est correct de les laisser de côté un petit peu pour faire autre chose, mais je pense que c'est ça qu'elle a.
Moi, je dirais, écoute, elle s'est écoutée. Et puis, le réaliser, elle semble être bien heureuse en ce moment aussi.
C'est pas facile, elle l'a dit, on l'a bien compris, mais... Elle avait la voix d'une femme heureuse. Ouais. Patrick Lacasse, merci beaucoup. Bonne chance avec les... comment vous appelez ça?
Lacasse.
Les délices Lacasse.
Merci.
Délices Lacasse. Merci. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre qui vient de sortir ces jours-ci, Changer de vie. C'est le récit de votre changement de vie. Ça ne peut pas être plus clair que ça.
Exactement. Mais ça sort mercredi le 11.
Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite après la pause, entrevue sans filtre. Mon invité, Emmanuel Bilodeau. Restez là.